Et à 8h49, il est également parfait pour se réveiller un jour férié ensoleillé. Thomas Baumgartner, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Pour la revue de presse, c'est une revue de presse où rien ne se passe comme prévu ce matin.
Qu'est-ce qu'il est beau avec sa mèche jaune
c'est
en bataille.
C'est vous qui le dites.
Donald Trump, oui, en tout cas, il est encore temps de le trouver beau et de changer d'avis à son sujet. Il y a quelques semaines encore, on ne l'attendait pas là. Il occupe une partie des unes de la presse du jour, le candidat à la candidature républicaine à la présidentielle américaine après sa victoire avant-hier dans la primaire de l'Indiana et le retrait de ses derniers concurrents. Il occupe les unes et les analyses en page intérieure. Le vote Trump ou la faillite du politique, par exemple. C'est le titre de la tribune de l'universitaire Laurie Kenton dans les pages débat du Figaro. Il serait erroné de réduire le vote Trump à un simple vote raciste, écrit-il. C'est d'abord et avant tout un vote de protestation à l'intérieur de la sphère républicaine, mais ce n'est pas un vote extrême ou extrémiste. Comment expliquer sinon que Trump l'emporte presque systématiquement chez les modérés et les indépendants et soit systématiquement devancé chez les électeurs les plus conservateurs. Désormais, prédit Laurie Kenton, la campagne de Trump va se consacrer totalement à la destruction systématique de Hillary Clinton. Taper sur Clinton fera partie de la stratégie d'unification du camp républicain. Le front anti-Trump a échoué de bout en bout et il est très improbable que les républicains rejouent le scénario de 1964 où beaucoup avaient refusé de soutenir Barry Goldwater qui avait subi une défaite historique contre le démocrate Lyndon Johnson. Et la question centrale aujourd'hui, selon l'universitaire dans cette tribune du Figaro, c'est le choix du colistier ou de la colistière. Mode d'emploi du mécano-politicien. Il faudra une personnalité qui reste en retrait mais contribue à mobiliser les segments de l'électorat de la droite et du centre qui sont moins réceptifs à une candidature de Trump, bref, du plus traditionnel, du plus respectable aussi. Et on nous rappelle alors que Clinton était donnée gagnante contre Trump dans la plupart des enquêtes jusqu'à un sondage daté de lundi qui donne Trump légèrement en tête, 41% contre 39%. Rien ne se passe comme prévu donc, mais on ne va pas s'arrêter de prévoir. Ceux qui font des erreurs sont d'ailleurs parfois les premiers concernés. Question, qui a dit « je ne ferai jamais de politique parce que je m'exprime de façon trop directe » Eh bien c'est Donald Trump lui-même et c'est Libé qui nous le rappelle, mais c'était il y a longtemps. C'était en 1990, époque où manifestement il était convenu d'euphémiser, de modérer ses propos pour être candidat à la présidentielle. En 1990, au moment de cette déclaration, c'était la deuxième édition du Tour de Trump. Libé et Pierre Carré nous rappellent cette histoire d'une course cycliste qui s'appelait comme ça, en français dans le texte, le Tour de Trump, peut-être qu'on disait, destiné à concurrencer le Tour de France, mais qui n'a connu que deux éditions en 1989 et 1990. Un départ donné de la Trump Tower en plein New York, en toute logique, l'arrivée finale est jugée devant son hôtel casino en bord de mer à Atlantic City, dans le New Jersey. Donald Trump ne comprend rien au cyclisme, nous raconte-t-on. Rien au cyclisme et à ses règles ou à sa culture. Son truc à lui, c'est plutôt la boxe et son champion vénéré Mike Tyson. Mais le vélo, bon, un bon matin, Donald Trump et Greg LeMond, vainqueurs du Tour de France, 86, 89 et 90, donc à l'époque au sommet de sa gloire, Trump et LeMond ont une conversation badine à propos des relations au sein du peloton. Est-ce que vous pouvez être à la fois ami et adversaire, demande Trump. Oui, répond LeMond, réplique de Donald Trump, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et on nous rappelle les soupçons de triche aussi lors de la première édition de la course. Mais page suivante, un peu plus loin, toujours dans Libération, Mathieu Écoiffier, envoyé spécial à New York, voit dans Trump un président de moins en moins virtuel. Trump a démenti tous les analystes qui, à chacun de ses dérapages violents, racistes ou sexistes, prédisaient sa chute. Oui, Trump a des chances de devenir le prochain locataire de la Maison Blanche, dit Mathieu Écoiffier dans Libé, parce qu'il incarne un renouveau, le sortez les sortants face à la candidate de l'establishment, parce que novice, il peut se contredire sans que ça soit retenu contre lui, parce que sa gagne va unir et faire venir à la soupe républicain évangélique et modéré, parce que Clinton va boiter avec les Pin Sanders dans le pied jusqu'à la convention démocrate fin juillet et parce qu'il bénéficie d'une insolente baraque. Donald Trump qu'on croise jusque dans les interviews données cette semaine par Woody Allen qui sort un film Café Society et on lit ses propos par exemple dans L'Obs cette semaine. Il a joué dans un de mes films Celebrity en 1998, se rappelle le réalisateur américain. Il était très bien, calme, ponctuel, il connaissait son rôle, ce qui ne veut pas dire qu'il a vu mes films. Et Woody, face à François Forestier, qui l'interroge donc dans L'Obs, se risque à la prédiction à son tour. Je me trompe peut-être, mais il n'y a aucune chance qu'il devienne président des États-Unis. Je ne voterai pas pour lui, c'est sûr. Mais là, où vraiment rien ne se passe comme prévu, c'est qu'on apprend que même les psys de Woody Allen sont déçus. « Je suis un bourgeois productif, c'est tout », explique-t-il. « Un psy m'a dit une fois, je pensais qu'avec vous ce serait passionnant, mais vous êtes comme un comptable. Une vie normale, j'ai une vie normale, rien d'excentrique », dit Woody Allen, « rien de fiévreux, je ne me saoule pas, je ne me drogue pas, je ne suis donc pas un artiste ». Une déclaration qui pourrait donc, dans le même mouvement, à la fois vexer les comptables et fâcher les artistes.
La question de la prévision, Thomas, c'est ce qu'on trouve aussi dans Le Monde daté d'aujourd'hui, et il est question d'énergie.
Hier, Isabelle Kocher a pris la direction générale d'Engie, anciennement GDF Suez, et dans Le Monde, effectivement, elle répond aux questions de Dominique Gallois et Isabelle Chaperon avec une interview titrée « Le 21e siècle signera la fin des énergies fossiles ». Quand c'est une patronne de l'ex-GDF qui dit ça, on ouvre l'œil. Les énergies fossiles vont progressivement être remplacées par les énergies renouvelables décarbonées, comme le solaire, dit-elle. Ça va modifier en profondeur les comportements. Aux côtés des grandes installations, vont voir le jour de multiples productions locales décentralisées. La plupart des consommateurs d'énergie seront aussi des producteurs d'énergie, prédit Isabelle Kocher. Alors que la précédente révolution industrielle avait laissé pour compte des milliards d'individus, l'actuelle s'annonce plus équitable. L'énergie décarbonée et le numérique sont les deux poumons d'Engie pour le futur, annonce-t-elle, confirmant qu'il y aura dans l'entreprise forcément des suppressions de postes sur des sites et des créations à d'autres endroits. Isabelle Kocher relève aussi qu'il y a désormais une nouvelle concurrence dans l'énergie, où les acteurs historiques ne sont plus protégés par la barrière à l'entrée que constituaient les nécessaires investissements considérables pour construire une usine, par exemple. Engie, nous rappelle, Le Monde a accusé 4,6 milliards d'euros de pertes en 2015. Alors, prendre le temps de réfléchir avant de prévoir et prendre le temps de se préparer après la prévision. Voilà ce que réclame le prix Nobel d'économie 2014, Jean Tirole, à qui l'Express consacre sa couverture cette semaine. Corinne Lailly, qui l'a rencontré dans son bureau de la Toulouse School of Economics, alors qu'il publie Économie du bien commun, un pavé de 600 pages et 17 chapitres au PUF. Elle rappelle, Corinne Lailly, que le professeur d'économie, Jean Tirole, s'était prononcé en faveur de la première version de la loi El Khomri. En France, vous êtes étiqueté comme libéral, lui dit la journaliste. Réponse de Tirole, oui, mais les personnes qui disent ça, souvent, ne savent pas ce qu'est le libéralisme, qui n'est pas du tout le laisser-faire, mais la responsabilisation des acteurs économiques pour inciter à contribuer au bien commun. Les régulations sont la main visible du marché au service de l'intérêt général. Elles représentent le cœur de mes recherches, rappelle-t-il. À l'étranger, je suis vu comme quelqu'un de gauche, très régulateur. Plus loin, il poursuit, nos sociétés doivent se confronter au sujet qui menace la pérennité de notre système social. L'un des messages de mon livre est qu'il n'y a pas de fatalité aux maux dont souffre notre pays. Il existe des solutions au chômage, au réchauffement climatique, à la déliquescence de la construction européenne, mais il faut anticiper les évolutions. Nous connaissons actuellement une crise des réfugiés, mais nous aurons une crise des migrants liée au réchauffement climatique. Sera-t-on en mesure de créer des emplois pour ces migrants? Ils sont une chance pour notre pays, pour sa démographie, pour sa sécurité sociale, son système de retraite, si on peut leur offrir un travail. Et j'en Tirole conclut, toujours dans l'Express, il ne faut pas attendre de crise économique majeure pour agir, il faut anticiper, sinon on réagit à la hâte et de façon brutale. Bonne journée.